PolySécur, c'est l'actualité au 10 novembre 2025. Aujourd'hui, j'enregistre la journée même que ça sera diffusé. Considérant que ce week-end, j'étais au DEFCON à Montréal. Super événement, ça m'a mis en contact avec des réalités que ça fait un bout de temps que j'avais et j'ai constaté que j'étais un peu rouillé sur l'usage de Splunk et de Sentinel et même encore de Elasticsearch où je suis pas très très bon. Bref, j'ai appris des super bons concepts, ça a été une très belle découverte pour moi cet événement-là. Très hâte à la prochaine itération puis probablement être un peu plus actif sur les CTF à ce moment-là où je vais être un peu plus prêt. Sinon, les Shameless Plug, 17 au 20 novembre, à nos portes, tout à fait. L'European Cyber Week, lequel je vais être. Je vais participer à un panel, je vais enregistrer des podcasts, je vais être un peu tourné. Je suis un peu contraint dans le temps, fait que je suis très serré. Si vous voulez qu'on se voit, levez la main rapidement pour qu'on puisse se trouver un moment ensemble, prendre un verre ou jaser, soit dans un corridor, quoi que ce soit. 25-26 février, le Secure revient, le bot compte le 14 et, au 17 avril. Cyberico, Cyber Conférence le 28 et 29 avril, le 9 et au 17 mai, le NordSec et le STIX 3 au 5 juin. Commençons avec les nouvelles, plusieurs nouvelles sur le AI cette semaine. Quelque chose d'assez particulier comme réflexion, parce que bref, c'est assez. On verra. Première nouvelle, la fameuse inquiétude d'avoir les agents AI devenir voyous, et ça c'est un rogue en anglais, comment faire le contrôle, c'est assez simple, c'est toutes des mesures de base, puis je trouve ça un peu fascinant qu'on réinvente encore la roue sur ces choses-là. Je pense que beaucoup de gens qui n'étaient pas en contact avec la cybersécurité, qui se retrouvent à être propulsés en cybersécurité ou se retrouvent à être propulsés en AI et être confrontés avec ces choses-là, donc de ramener toujours les éléments de base, les contrôles, les humains, mettre des balises, s'assurer que ça ne va pas très loin. Et ça va aussi dans le même sens qu'on donnait trop de droits à des humains parce qu'on présumait qu'ils étaient raisonnables dans la plupart des cas. Dans certains cas, on a vu des problèmes assez majeurs qui ont eu lieu ou des fuites de données majeures qui sont dues par des accès trop, trop grands. Donc, le AI, il faut le prendre vraiment du côté où le plus limité possible dans ses accès pour faire qu'il ne fait que ce qu'il y a à faire. Bref, même chose du côté des agents AI au niveau de, parce qu'on parle de changement de personnalité justement pour les rendre plus agréables. En tout cas, bref, le plus facile à interagir comme un collègue versus une machine froide. Il y a vraiment beaucoup d'efforts. Puis ça me fascine un peu ce genre de choses-là parce que c'est un, je ne vois pas encore l'aboutissement. C'est encore des solutions qui se cherchent des problèmes. Donc, c'est un peu particulier, un peu comme dans le début des années 2000 où il y avait des dot-com qui cherchaient des problèmes. Ce qu'on a vu aussi avec des startups et tout. Donc, je trouve ça un peu familier, particulier qu'on soit encore là. Mais bref, il y a beaucoup d'argent. Les gens doivent chercher des investissements. Quand on pense avoir trouvé la mine à or, puis tout va retomber dessus. Là. C'est un peu ce rêve-là aussi qui est propulsé ou qui est entretenu à travers tout ça, cette espèce de course à l'or. Autre nouvelle, il y a des acteurs malicieux qui font la promotion d'outils de type GPT pour des actions malicieuses, c'est-à-dire que c'est des versions de ChatGPT qui ne sont pas limitées ou qui n'ont pas de balises de limitées. L'usage malicieux, donc de faire des virus, faire des deepfakes, des choses. Fait que vraiment, l'article est très intéressant là-dessus de voir ce genre de choses-là. Mais en même temps, c'est pas étonnant, ils développent leur marché aussi. Les autres aussi, c'est comme un univers qui est commercial comme celui qu'on a de notre côté, du bon côté. Donc, c'est à peu près la même chose. Il n'y a aucune surprise de ce côté-là. Puis je pense que quand on va avoir bien saisi que ce marché criminel-là est très actif et probablement beaucoup plus innovant que le marché standard, on va mettre les énergies aux bonnes places pour contraindre ou limiter la capacité, même avec des outils comme ceux-là, de faire quoi que ce soit sur nos entreprises. L'Université de Toronto, par le Citizen Lab, trouve que la démarche du gouvernement du Canada n'est pas suffisante pour la surveillance du AI. Essentiellement, je trouve que la loi, cette loi-ci, est beaucoup moins mordante que la loi précédente. Il y a moins de responsabilité, donc de regarder comme ça. Ils s'opposent un peu là, en disant que la loi actuelle était juste pour faire beau et pas avoir des mesures réelles, comme on peut par exemple trouver en Europe. Donc, c'est ce type-là. Comme citoyen, ben, c'est de se placer et d'aller soit le lire le projet de loi, prendre le temps et de commenter, donner notre opinion qui permet justement de faire changer les choses dans la bonne direction. Le MIT se retire un commentaire sur le fait qu'il disait que les ransomware étaient utilisaient beaucoup l'intelligence artificielle. Ça a créé beaucoup. J'ai peut-être tombé un peu dans le piège aussi de certaines publications qui avaient lien avec ça, puisque c'est difficile de réussir à trouver là, la bonne source d'information. Puis il y a justement Kevin Beaumont qui était très critique par rapport à ça. Krabs aussi, qui était très critique par rapport à ce que j'ai lu. Donc, essentiellement, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas fondé sur des études, c'est peut-être plus la projection qui dans ce cas-ci, que les ransomware utilisent beaucoup du AI. Par ailleurs, c'est pas faux de dire qu'ils utilisent ces outils-là pour accélérer. Comme je le mentionnais, ils ont des outils déjà, une trousse d'outils. Est-ce que c'est aussi exceptionnel que ça l'est? Probablement pas. Puis là, c'est justement là, faut voir la non-exceptionnalité des choses, puisque je pense que les gens se projettent beaucoup dans ce qui pourrait faire avec du AI, comme ou ce que les méchants pourraient faire. Dans la réelle, ils l'utilisent juste de façon pragmatique pour accélérer leur travail puis augmenter leur PD. Et sans plus que ça, c'est vraiment de la psychologie de sœur. Fait que maintenant, il faudrait arrêter d'aller dans cet univers-là. Dernière nouvelle de AI, Microsoft parle d'un ransomware, je crois, ou malware, du moins, qui utilise les API de ChatGPT pour communiquer pour son C2. Encore là, c'est pas du AI qui est utilisé proprement dit, mais utilise les API pour être capable d'aller chercher des commandes et pousser. Donc, il y a comme une forme d'interaction qui se fait à travers les API. Donc, pour passer outre les contrôles, passer à travers les différents éléments, ben, utilise cette stratégie-là pour contourner les filtres pour exister pour les command and control et tout ce qui entoure ça. Section bleue, le MITRE ATT&CK, les vidéos sont disponibles maintenant pour ceux comme moi qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Donc, vous pouvez aller voir toutes les présentations, les vidéos, tout est là. Fait que c'est super chouette. Ça va occuper les prochains jours et semaines, qui sont déjà pas mal occupés par ailleurs, mais en tout cas, ça va se rajouter sur la pile. Chrome a sorti une patch d'urgence pour régler les vulnérabilités. Le problème n'est pas autant, ou ce que je veux mentionner, c'est pas autant que Chrome a sorti une vulnérabilité que c'est très important que vous redémarriez votre Chrome à tous les jours, parce que le processus de mise à jour automatique nécessite un redémarrage à tous les jours. Donc, de le faire régulièrement va vous assurer de toujours être à jour, de toujours avoir la dernière version, puis de vous être correctement protégé. Un des avantages de ces nouveaux navigateurs-là qui se mettent à jour automatiquement en entreprise, Edge se met à jour forcé par l'entreprise, mais encore là, si l'entreprise a juste à se dépêcher de faire les choses. Mais de côté plus perso, le redémarrage automatique permet de mettre à jour automatiquement. Et Brave alerte quand que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas redémarré et qui essaie de forcer un peu les choses pour nous aider à redémarrer justement pour bénéficier de ça. Apple corrige plus de 100 vulnérabilités dans sa dernière version 6.1, je crois. De mettre à jour. Là, encore là aussi, c'est important de suivre le rythme de diffusion de Apple. Apple d'ailleurs empêche le retour arrière très rapidement, justement pour aider les gens et mettre en place beaucoup de stratégies de upgrade automatique ou de mise à jour automatique. Activez-les si possible pour vous protéger de ce qui peut arriver. C'est des cibles maintenant très importantes. De plus en plus de vulnérabilités sont trouvées parce que les gens s'intéressent de plus en plus à cette plateforme-là. Donc, mettez à jour automatiquement et va vous sauver beaucoup, beaucoup de problèmes de ce côté-là. Puis c'est un peu dans la même chose que Chrome. Pas de redémarrage, c'est pas nécessaire, mais au moins la mise à jour soit faite régulièrement, qui va nécessiter généralement un redémarrage de toute façon. Microsoft retire le Defender Application Guard for Home Office. C'est un volet particulier, pas qu'il retire la protection des choses, des éléments Office, mais ils vont juste déplacer ça dans la plus grande famille Defender maintenant. Donc, on déplace un peu l'endroit où se mettait en action cette protection-là. Encore là, ça demande le fait d'avoir Defender sur Foreign Point, ça demande un peu un certain nombre de choses. Fait que Microsoft est très invasif. Puis je trouve ça un petit peu achalant avec le temps, le fait que Microsoft mette en place des moyens de sécurité complémentaires pour protéger des erreurs de design de ces systèmes. Donc, c'est un peu étrange comme concept. Donc, de quelqu'un de vendre une serrure, mais dire, ouais, mais si tu veux la clé, ben, faut que tu la payes plus cher, puis machin. Donc, je trouve ça un peu particulier comme approche. Il faudrait qu'un peu, comme domaine, qu'on arrête de voir capitaliser sur le fait de la protection. C'est comme d'avoir de demander un chargé pour le SSO, ou en tout cas, bref, ou chargé pour le MFA. Je trouve ça un peu contraire à où on devrait aller, mais bref. Au-delà de mon commentaire éditorial, ça vient de changer, donc assurez-vous qu'il y a quand même des protections. Puis ce que ça faisait, le Defender Application Guard, c'est que ça allait me faire un sandbox pour éviter que les documents Office viennent contaminer le poste en exécutant. Donc ça faisait essentiellement ça, ce qui est une belle approche par ailleurs qui devrait être répandue à probablement toutes les applications. Puis on retrouve un petit peu du côté du Mac, là, certaines volets de ça sont déjà plus natifs, où les applications sont un peu prises dans leur prison, dans leur enveloppe, donc sont pas moins capables d'être exploitées pour faire des affaires comme ça. Pas parfait, mais en tout cas, c'est un petit peu, fait que bon, bref. Puis c'est intégré au système qu'on reçoit automatiquement, gratuitement toutes les années, contrairement à Windows dans lequel on est chargé. Le modèle d'affaires est différent. Microsoft va zapper les Authenticator, l'application Authenticator sur les périphériques qui sont considérés jailbroken, ce qui est une très bonne chose. Ça a pris du temps avant qu'ils fassent ce genre de choses-off parce que Intune était capable de le détecter depuis très, très, très longtemps. Et d'ailleurs, on bloquait, en tout cas chez mes clients, c'était toujours bloqué du branchement des appareils qui étaient jailbreakés parce qu'on ne peut pas garantir la protection de sécurité qui va avec. Donc, essentiellement, c'est très important de le faire. Fait que je trouve ça c'est un peu lent avant que Microsoft ait fait ça, mais c'est une très bonne chose d'avoir enfin bloqué ou en tout cas zappé cette capacité-là sur les périphériques pour justement protéger tout le MFA et tout ce qui va avec pour contrôler les méchants. Section Red, on commence avec un bunch de nouvelles sur Teams. Teams clairement se fait attaquer, ou en tout cas brasser beaucoup dernièrement par les chercheurs, par les attaquants, par tout le monde, justement pour exploiter le maximum. C'est comme un outil qui est quand même très présent en entreprise, donc ça a beaucoup d'intérêt. La première nouvelle sur Teams, l'encryption des cookies de sessions qui sont mis dans Teams, parce qu'il y a quand même beaucoup de cookies de sessions qui sont maintenus en arrière-plan de l'application, qui sont dans une base de données, si je ne me trompe pas. Mais bref, tout ça est capable d'aller chercher. C'est moins bien protégé que dans des applications comme Chrome, par exemple, qui ont suivi les façons d'attaquer. Fait qu'un infosealer a beaucoup de facilité à aller chercher les cookies de Teams dans des applications lourdes. Donc, c'est une source, en tout cas, bref, un élément encore plus important de protéger puis d'éviter que les Teams soient utilisés sur appareils personnels si vous n'avez pas confiance aux personnes qui sont là ou si ce n'est pas des mesures complémentaires pour vous assurer que la session n'est pas volée sur les postes des personnes en question ou si les personnes ne vous contrôlent pas. Sinon, bien, poussez-les vers une version web qui est naturellement mieux protégée parce que les cookies sont mieux protégés de ce côté-là. Microsoft va rajouter le chat with anyone, c'est-à-dire la capacité d'utiliser Teams pour remplacer un peu ce que faisait Skype, être capable de parler avec des gens à l'extérieur, des tenants à l'extérieur, des choses comme de l'écosystème Microsoft. Et ça va même plus loin au chat avec des gens qui n'ont même pas de compte dans l'écosystème de Microsoft. Incidemment, ça va créer des problèmes parce que de ça va permettre à des gens d'abuser des capacités que tout ça nous offre. Donc, de trop vouloir rendre le produit accessible à tout le monde va justement faciliter le fait de faire se tromper, de recevoir des éléments toxiques là, qu'on va avoir, fait qu'on va avoir une vague d'autres problèmes. Fait que la seule chose que Microsoft dit, ouais, ben, les administrateurs autonomes doivent verrouiller cet élément-là pour pas que ça se passe. Bref, c'est. Bref. Puis finalement, dans la nouvelle sur Teams, il y a une capacité dans Teams de manipuler les messages qui sont reçus par les destinataires. Cette vulnérabilité-là est corrigée depuis. Donc, mettez à jour votre client là, au plus vite. Mais essentiellement, les messages n'étaient pas authentifiés. Donc, je pouvais changer la nature du message qui était envoyé à l'autre Teams et il procédait comme si c'était... je prenais la personnalité de quelqu'un d'autre, je prenais le nom du président, et ainsi de suite. Donc, on était capable d'usurper assez facilement les messages qui étaient reçus par les autres. Donc, de corriger ça, c'est corrigé depuis, mais bon, il y avait cet élément-là. C'est quand même un morceau ce qui est devenu une pièce d'infrastructure majeure et, bon, bref, c'est ce que c'est. Au moins, c'est corrigé maintenant. Les hackers utilisent Hyper-V pour cacher des attaques des ADR, d'autres techniques pour évader les, pour contourner les ADR. Dans ce cas-ci, mettre une machine Linux qui est non comprise par les ADR. Mais dans l'épisode que j'avais enregistré avec Charles, justement ça, mais, puis ce que j'ai vu d'ailleurs au Datron en fin de semaine, les ADR sont très faciles à contourner parce que c'est des, quand même des agents relativement statiques qui vont regarder des éléments définis. Et l'usage dans ce cas-ci de Linux vient littéralement contourner toute cette capacité-là de repérer des mots-clés ou des regex ou des choses comme ça. Puis j'ai vu des regex assez simples dans la plupart de ceux-ci. Donc, ça dépend de la philosophie du EDR, mais en général, c'est dans cet espace-là. Fait que c'est pas super... avant le confinement, j'étais super un gros fan de EDR, puis plus le temps avance, plus je me rends compte que la limitation de la technologie qui est associée à ça. Et donc, bref, on est vraiment prisonnier de la capacité de la compagnie d'EDR qui... puis c'est quoi le spectre de ce qu'ils surveillent pour baliser comme ça. Fait que ça ramène une nouvelle réflexion sur comment on doit protéger les points terminaux. Le gouvernement danois doit revoir une acquisition de ses autobus puisqu'il s'est rendu compte que celle-ci était branchée avec des cartes cellulaires qui permettaient aux Chinois d'aller contrôler les autobus. C'est un manquement qui est assez particulier puisque il me semble que ça devrait faire partie des éléments qui sont regardés de base. Moi, je suis un peu surpris de cette nouvelle-là en soi parce que il m'apparaît plus naturel qu'on assure ce genre de choses, qu'on fasse ces vérifications-là ou peut-être qu'on était trop tranquille. Ou même dit que les Canadiens étaient trop tranquilles par rapport aux Américains, auxquels maintenant ben, on regarde avec un différent œil. Donc, s'assurer que toutes les acquisitions modernes qui ont moins vraiment de la technologie dedans, mais qu'on puisse justement ne pas avoir des éléments qui donnent à un pays adverse ou potentiellement adverse des capacités sur nous qui nous mettraient dans le problème. Un rapport pour les insiders, c'est toujours aussi difficile de trouver les insiders dans les compagnies ou les prédire ou comment faire avec ça. C'est un peu une incapacité ou un manque de volonté de regarder comment ceux-ci attaquent, comment les insiders existent, de par le fait même qu'on a une confiance naturelle face à nos humains, à nos autres humains et surtout à nos employés qui est comme ça. Donc, on revient un peu à ce que je mentionnais dans la première nouvelle au niveau des AI, de mettre des balises, mettre des choses comme ça pour s'assurer que les droits d'accès sont correctement encadrés. Bon, on est un petit peu dans le même univers où on n'avait pas cette habitude-là d'encadrer correctement le travail des employés de par une certaine forme de confiance naturelle en ceux-ci. Mais bref, de reviser un peu cet élément-là, de continuer à travailler un peu là-dessus, puis de permettre un peu de recherche pour nous aider à trouver des stratégies qui autant permettent aux humains de bien collaborer et de se sentir accueillis chaudement, parce qu'on est quand même des humains, et de l'autre côté, de mettre des balises de sécurité qui sont suffisantes pour justement empêcher le insider risk qui va commencer qui augmente pas, mais qui est toujours présent. Il l'a toujours été d'ailleurs. Les criminels et les... cybercriminels et les criminels vont œuvrer ensemble. Il y a eu des cas de cargo qui ont été volés justement en mettant en équipe des éléments comme ça, en volant des comptes un peu, comme je mentionnais avec les... je ne l'ai pas mentionné, il n'est pas diffusé encore. Ce que la podcast que j'ai enregistré avec Sequoia, où justement il y était des gangs spécialisés pour le vol de creds au niveau des hôtels, mais les autres, c'est un peu dans la même idée. Il y avait des brokers de transport qui se font attaquer, dans lesquels font faire des faux cargos ou volent les cargos, prendre des travaux sur des cargos, et ainsi de suite. Et en manipulant ces informations-là d'un point de vue informatique, sont capables de voler les 10 cargos, donc de faire de l'argent sur ce genre de choses-là. Donc là, on est vraiment dans une bascule où les techniques de cybercriminels sont utilisables facilement dans le monde réel, puisque le monde réel est manipulé et maintenu par tous ces systèmes-là. Donc on est quand même la bascule comme ça, le point de rupture où on va avoir de plus en plus, un flou un peu plus grand entre les deux univers, donc de voler des choses dans le monde réel à partir de techniques de cybercriminels. Bref, on est rendu là, donc excusez, fait que soyez plus prudents et vos systèmes et avec vos intermédiaires, puisque c'est souvent dans le cas du fret, c'est des petits intermédiaires qui sont plus faciles à attaquer, ces méchants-là rentrent et vont faire leurs travaux et s'insérer et voler essentiellement du contenu qui est transporté. Dernière nouvelle dans le Red, il y a des négociateurs de ransomware qui ont été pris la main dans le sac de vendre leur propre ransomware. Donc, de faire le double, puis double dipping, c'est d'un côté essayer de faire de l'argent, du côté de vendre, de déployer des ransomware, puis de l'autre, d'essayer de négocier de façon de mauvaise foi, puis de ramener de l'argent au centre. Bref, c'est un peu particulier, mais en tout cas, je lève mon chapeau pour l'imagination de ces gens-là. Mais en même temps, c'est bien que ça soit détecté et arrêté, justement, pour que ça soit un dissuasif assez important de ce genre de choses-là, parce que rendu là, c'est le voleur qui nous convainc de payer la rançon, c'est un peu particulier. Bref, section sur l'église, le plus sur des choses de droit. La première nouvelle sur la notarisation des applications Apple. Le DMA en Europe vient limiter grandement cette capacité-là, ou vient de créer une espèce de barrière à l'entrée. Et il y a une poursuite qui est mise de ce côté-là, mis en mettant à l'avant que le marché, ou en tout cas, bref, le App Store d'Apple n'est pas suffisamment ouvert selon les règles européennes. Et ici, c'est un peu la frontière des deux. Pour moi, c'est pour ça que j'amène la nouvelle. Le principe de notarisation qui est des applications sur le App Store et donc qui viennent s'installer sur mon téléphone, pour moi, est une mesure suffisante de sécurité pour limiter la montée en puissance de problèmes de virus, de malware, de peu importe, de ce qu'on a dans cet écosystème. Il y en a, mais au moins, ça devient une porte très limitée, ce genre de choses. Je comprends la demande qui est faite de vouloir avoir un marché, puis d'ouverture, tout ça, puis le fondement justement du DMA est quand même intéressant. Par ailleurs, elle ne répond pas au volet sécurité, donc on va créer un énorme problème parce qu'on veut ouvrir le marché. Quand ce marché-là a toujours été contrôlé, justement limitait ou empêchait une très grande partie des problèmes de sécurité qu'on a vécu, notamment sur Windows, puis on vit encore d'ailleurs sur le fait des virus qui circulent, tout ce qui est dans cet univers-là. Ça venait essentiellement régler ça. Donc, oui, l'ouverture, mais je crois qu'on ne peut pas juste arracher les contrôles de sécurité qui ont été mis en place, même si en partie, on ne se cachera pas que Apple l'utilise aussi pour donner une place de dominance sur le marché. Puis ça, c'est pas ça la question, mais c'est d'enlever cette place de domination-là ne vienne pas briser tous les bénéfices de sécurité qu'on obtient par cet élément-là. On va le faire remplacer par une autre stratégie ou une autre façon de faire qui permet justement d'arriver à l'ouverture du marché, mais on conserve la sécurité. C'est un peu dans les mêmes réflexions que les législateurs vont voir notamment s'infiltrer dans les communications chiffrées et tout ce que ça concerne. C'est toujours de conserver en tête qu'il y a des dommages collatéraux à ces changements-là ou à cette demande-là et que des fois, les dommages collatéraux sont plus grands que le bénéfice qu'on cherche à obtenir par ça. Donc, dans ce cas-ci, ça n'en est un comme ça. À mon sens, je pense que les dommages collatéraux sont beaucoup plus grands que le gain qui va être obtenu par l'ouverture qui va avec. Dans un contexte où ils sont juste agressifs de vouloir ouvrir le marché, au lieu de dire oui, on ne veut pas ouvrir le marché, mais on veut ouvrir le marché, mais on propose une approche sécuritaire, et ce qui n'est pas fait dans ce cas-ci. Fait que là, bref, c'est un peu là où mon malaise par rapport à cette situation-là, où c'est juste un côté, mais ce n'est pas les deux. Et des fois, quand on a un, ça brise tout. Nouvelle sur la souveraineté numérique pour Microsoft. Depuis le témoignage devant le Sénat français, il y a beaucoup d'excitation de ce côté-là, notamment par les hyperscalers. Google était déjà plus avancé que Microsoft et AWS traîne la patte globalement. Ces déplacements-là, soit notamment le transfert opérationnel de certaines fonctions à des tiers entièrement européens, comme Sense au niveau de Google, par exemple, est une stratégie comme ça. D'un côté, c'est sûr que la stack technologique n'est pas détenue par l'opérateur européen, mais au moins d'un point de vue légal, la barrière entre les États-Unis et l'Europe est meilleure pour être capable de protéger les données. Mais encore là, on est dans un contexte d'évaluation du risque, qu'est-ce qu'on est prêt à tolérer, tout ça. Et j'en ai parlé dans plusieurs présentations que je fais sur le sujet où Dans certains cas, les usages des hyperscalaires américains est tout à fait justifié et ne pose pas un danger à la souveraineté, quand dans d'autres, ça en présente. Et il y a toute une coloration de niveaux de souveraineté qu'on peut déclarer dans les différentes solutions. Donc, on peut voir que dans certains cas, ça l'est ou ça ne l'est pas suffisamment. Donc, de juste choisir la solution qui est bien établie, qui est au bon niveau pour nous. Tout est construit à 100%, tous les logiciels sont faits. Tout est vraiment maîtrisé par l'opérateur. Donc ça, c'est le cas extrême. Et l'autre qui est... Tout est géré par un opérateur étranger. Il y a toujours un niveau, il y a beaucoup de nuances, c'est très compliqué comme domaine. Faites-vous accompagner par des gens qui connaissent ça, qui connaissent les dédales de cet univers-là. Mais bref, les grands hyperscalers sont nerveux. Le gouvernement américain vient de briser leur parade et leur domination mondiale d'ailleurs aussi. Fait que c'est un peu ironique que ce soit le gouvernement américain qui soit leur pire ennemi à ce moment-là. Donc, ça va amener de la réflexion et d'amener aussi peut-être un langage aussi, une labellisation de souveraineté qui est plus simple que le Second Amendment, parce que maintenant, c'est assez compliqué à obtenir, dispendieux et long. Ça a un bénéfice pour ceux qui en ont besoin, mais ça va avoir un niveau de labellisation plus simple pour que les compagnies puissent au moins, de point de vue marketing, mieux expliquer. Elles ont de dire la source des logiciels, la source des opérateurs, toutes ces affaires-là. Donc, d'avoir un peu comme des ingrédients, si on veut, comme sur la boîte de céréales qu'on lit le matin. Fait qu'au lieu de donner notre ingrédients de la boîte de céréales ou les éléments nutritifs de la boîte de céréales, mais on va lire les éléments du hyperscaler ou du cloudeur qu'on veut utiliser comme chose. Donc, d'avoir standardisé ça. On le voit un peu dans le RGPD où c'est un peu exigé, cette information-là, quand les informations sont traitées par des compagnies tiers. Par ailleurs, c'est pas sur la table d'éléments nutritionnels que c'est facile à voir, qu'on a un élément qui est uniformisé, qui est établi et qu'on peut s'attendre à voir. Donc, être capable de prendre des décisions rapidement. C'est peut-être là la prochaine étape pour tout le monde. DHS va ramasser des éléments biométriques, la voix, les yeux, les rétines, ainsi de suite, les empreintes digitales, des non-citoyens, puis vont étendre ça jusqu'aux citoyens maintenant. Donc, un appétit très, très grand par les forces de l'ordre américaines de contrôler, en tout cas, bref, d'avoir les informations biométriques de tout le monde. Donc, c'est pas des choses qui sont super intéressantes. C'est un peu épeurant au sens où ça augmente le niveau de contrôle de l'État sur les gens, sur ses citoyens et sur les étrangers qui sont sur son territoire. C'est pas une cachette que le gouvernement américain dit avoir énormément de contrôle sur les étrangers sur son territoire de par des peurs qui sont non fondées. Mais bon, bref, c'est le mot du moment. Donc, d'aller là, donc c'est pas des bonnes choses d'avoir cette quantité de données-là qui est à leur disposition pour contrôler les masses. On a vu plusieurs éléments au niveau mondial qui sont très négatifs par rapport à ce niveau de contrôle-là ou ce niveau d'information-là. Donc, bref, en espérant qu'on n'aille pas dans du très, très négatif dans les prochaines années, mais c'est pas rassurant. Puis dans le dernier bloc d'hiver, trois nouvelles. La première, puis ça revient un peu avec les éléments de Teams j'ai vu dans le Red. C'est un texte d'opinion sur le fait que le contrôle qualité chez Microsoft est en déroute. Autant après les déboires des années 90 où Bill Gates a pris les choses en main puis a forcé une augmentation de qualité très, très importante au niveau cyber notamment, mais pas juste de ce niveau-là. Donc, de mettre beaucoup d'importance sur l'aspect qualité de production du code. Ce qui a paru énormément aussi avec tous les éléments comme NT4, SP4 et tout ce qui a suivi après ça, Windows 2000 et toute la famille. Il y a eu quelques petits ratés au passage, mais quand même, globalement, le niveau qualité avait énormément augmenté. On avait des logiciels très robustes, très, très solides. Windows XP est encore dans plusieurs environnements maintenant parce que c'est un N1 qui est passablement robuste. Donc, cet univers-là qui avait énormément de mise en qualité, bien clairement, ce n'est plus là. On l'a vu avec Teams notamment, on l'a vu avec beaucoup d'autres choses, où le niveau de qualité est en perdition chez Microsoft. Donc, les équipes de contrôle qualité qui sont là, ont été coupées. Il y avait dans le texte, il mentionne justement à un moment donné où ça avait été coupé, ce genre de choses-là. Donc, ça a des effets de couper les équipes de contrôle qualité. Et on le voit maintenant. On le voit beaucoup dans le cloud, on le voit beaucoup dans les logiciels qui sortent. Donc, ça paraît que l'argent n'est plus mis pour assurer la qualité de l'élogie. C'est un peu triste parce qu'il y avait à une époque, on pouvait s'appuyer sur l'exemple de Microsoft comme étant un point de référence au niveau de la qualité des logiciels qui sortaient de là. Bon, bref, l'appétit des gains et le non-intérêt de cyber. Bref, c'est comme la cyber, ça disparaît tout le temps. C'est pas très sexy. On finit par désinvestir avec le temps. Rapport de cybersécurité la prévision pour 2026 sorti par Google. Rien de super intense dedans, sauf l'usage du AI par les méchants. Aucune surprise, ils vont utiliser les bénéfices et probablement plus rapidement que les entreprises pour améliorer leur efficacité. On le voit déjà dans la qualité des courriels qui sont envoyés, la qualité des éléments qui sont sortis de ces groupes-là. Mais Vibe Code fait que ça fait le même problème de l'autre côté aussi, fait qu'on a peut-être pas autant problème de qualité de ce côté-là, mais bon, bref, tout est à voir comment ça va faire, sinon c'est pas un rapport très transcendant. Et dernière nouvelle, les Car Grade NAT est un problème puisque la manque d'adresses IP sur Internet fait qu'il y a eu ces grands blocs-là de pays qui sont cachés derrière d'un ou quelques adresses IP puisqu'il manque de disponibilité sur l'IPv4. On avait justement rajouté le NAT pour régler ce problème-là, mais finalement, comme on a réglé le problème, on n'a jamais eu de pression à sortir à basculer à IPv6. J'ai encore beaucoup de IPv4 dans mes mêmes choses. J'ai que l'Europe a fait des migrations tranquilles. Il y a plusieurs places qui sont en train de tranquillement migrer vers ce genre de choses-là. Mais le point de vue tranquille est beaucoup trop lent. Et bref, le problème associé à ça, puis c'est ce qui est soulevé dans l'article, c'est que comme un pays a un certain nombre d'adresses IP de sortie qui sont visibles sur Internet, donc tous les contrôles basés sur les adresses IP, notamment ralentir ou bloquer des attaquants, vient attaquer des grands pans de mur d'un pays puisque ces pays-là vont être pénalisés si un attaquant qui vient de ce côté-là vient d'utiliser ce que gère le NAT national qui fait ce genre de choses. Donc, c'est une réflexion à avoir, mais ça serait quand même important de commencer qu'on termine la migration vers IPv6 et qu'on arrête d'avoir du IPv4 partout pour justement régler une partie de ces problèmes-là. Puis d'un point de vue cyber, ça va faciliter de beaucoup le travail. J'ai été beaucoup plus succinct cette fois-ci, le temps est aidant. Je vais essayer de maintenir comme ça. J'ai été beaucoup plus sélectionneux, si on veut, dans les nouvelles que j'ai choisies, justement, parce que, un, j'ai pris le rythme. Deux, là, j'étais contraint dans le temps parce que j'avais le DEFCON en fin de semaine qui a beaucoup limité mes capacités à mettre le temps que je mets dessus. Fait que, donc, la contrainte est une bonne chose. Donc, ça va m'aider de voir comment aller dans le temps. Puis, encore une fois, si... j'écoute énormément vos commentaires, j'en ai plusieurs justement, j'améliore un peu mon chose à chaque fois justement sur la base de vos commentaires. Si vous en avez d'autres, c'est-tu des pans de mur que vous voulez voir plus, moins, il y a des choses que vous aimez moins, bref, souvenez-le, puis bref, à la prochaine.